Cette rencontre transpartisane, cet éventuel pré-tribunal en matière d'agression sexuelle, ça a eu lieu.
Oui, exactement, ça a eu lieu. C'est Véronique Yvon du Parti québécois qui avait suggéré cette rencontre-là. Ça a été organisé par la ministre de la Justice, Sonia Lebel. Ça a eu lieu hier après-midi. Première rencontre, donc, il y avait également Hélène David du Parti libéral et Christine Labrie de Québec solidaire. Ça part de la prémisse que de déposer une plainte pour agression sexuelle, c'est très difficile. Il y a toujours la notion d'inhibition, de honte. Il y a la question du temps. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce qu'il est trop tard? Comment est-ce que ça va être accueilli par la police, même si ça s'est beaucoup amélioré? Il y a encore vraiment difficulté de ce côté-là. Comment faire la preuve, surtout quand ça fait un certain temps que c'est arrivé? Et on dit que seules 3 plaintes sur 1000 finissent par aboutir. Quand on arrive en cours, si ça se rend, c'est certainement très éprouvant. Il y a un doute qui subsiste sur les victimes. La preuve est difficile à faire. Les victimes revoient leur agression, parfois leur agresseur. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et le système, dans la mouvance de moi aussi, MeToo, est débordé en ce moment. Donc, hier, première rencontre, aucune formule n'a été arrêtée. Il y a des différends qu'on peut sentir entre la ministre Lebel et Véronique Yvon. Et il faut dire qu'il y a peu de précédents aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a un tribunal comme ça qui existe en Nouvelle-Zélande et un autre en Afrique du Sud avec des réalités très, très différentes de celles du Québec. Donc, par contre, on a établi que les agressions sexuelles ne sont pas des crimes comme les autres. Ils ont une portée qui finit par affecter la personnalité des victimes. Il faut aussi réfléchir, au-delà du système judiciaire, de manière vraiment globale. Il faut parler de prévention, d'accompagnement des victimes, inclure dans la réflexion à venir les victimes, les groupes d'aide aux victimes, pas seulement des femmes d'ailleurs, des experts de tout ordre. Il faut penser également aux régions, que ça ne soit pas nécessairement un tribunal installé à Montréal, qu'on puisse faire des vidéoconférences. Bref, il faut penser aux femmes et aux hommes victimes d'actes d'agression sexuelle un peu partout à travers le Québec et rendre l'expérience de la justice moins douloureuse, moins traumatisante. Véronique Yvon, donc, a réitéré qu'elle voulait des tribunaux spécialisés sur les violences sexuelles. Sonia Lebel doit en être convaincue. Donc, on voit que c'est pas parce qu'on en a parlé une fois que la table est mise et que tout ça va se régler très rapidement. Mais en tout cas, premier pas a été franchi et il y a une volonté commune d'agir. Deux choses, Mathieu. La première, c'est vraiment le côté transpartisan. Ce serait la deuxième initiative avec la loi de Véronique Yvon sur l'aide médicale à mourir. Ce serait la deuxième fois qu'une initiative qui dépasse les partis et la partisanerie a lieu et une grande partie de la population a horreur, justement, de la partisanerie, veut plus de ce genre d'initiative-là. François Legault, d'ailleurs, lors de la sermentation de ses ministres, avait parlé de proximité, d'ouverture, d'humanité. Et ce projet-là est tout à fait dans cette mouvance-là, non partisane. Ça vient concrétiser cet esprit et d'avoir des idéaux communs au-delà de notre parti pour le bien commun. C'est vraiment une chose assez formidable, neuve et formidable. Et deuxième aspect, c'est que ce sont 4 femmes. Oui, les agressions sexuelles sont en majorité portées sur des femmes, pas que, mais en majorité. Mais d'où l'importance, on a lu des articles dernièrement dans les journaux parlant du fait que quand la ministre Marie-Chantal Chassé a été jetée en dehors de son ministère et qu'on a mis un homme pour la remplacer, Benoît Charrette.
Il y avait la question de parité.
Exactement, la question de la parité et de la question de compétences, d'où l'importance d'avoir des femmes, beaucoup de femmes compétentes dans tous les partis, provenant d'horizons, provenant d'expériences différentes. Et il faut les trouver, ces femmes. Il faut provoquer leur venue en politique pour les avoir et pour avoir des femmes compétentes. Et on pourra parler aussi de la compétence des hommes, mais ça nous amène presque à la question des quotas. Presque.
Mais, tu sais, je suis curieux de voir avec le temps si l'exercice, je sais pas, j'ai pas d'idée fixe à savoir si c'est une bonne chose ou pas ce genre de tribunal spécialisé. Tu sais, quand tu le dis, on peut pas être contre la vertu parce que
mais
ça semble être une très bonne idée.
Mais il faut voir ce que ça raconte en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Faut voir. C'est une belle, ça ne fonctionne pas. Fait que voyons d'autres solutions.
Mais,
est-ce la panacée? Je sais pas.
Il y a eu un changement. Je pense aussi la façon dont les corps policiers ont travaillé avec les cas d'agression sexuelle et de plaintes à caractère sexuel. À preuve, le Globe and Mail a fait un travail il y a un an ou deux là-dessus, où on a fait le tour des plaintes à connotation sexuelle, combien se rendaient au bout du processus, combien étaient amenés devant les tribunaux ou carrément étaient fermés. Puis on voyait qu'il y avait des corps policiers, c'était une lacune, parce qu'il n'y avait, avait pas l'effectif. La personne, c'est une enquêteur, l'enquêteur reçoit le dossier d'agression sexuelle. Un cas d'agression sexuelle, c'est traité comme un vol ou une plainte pour un vol de voiture. Mm-hmm. C'est le même enquêteur, parce que les effectifs sont pas là. Et là, on a vu que dans certains corps policiers, puis il y avait des villes ailleurs au Canada qui étaient pires qu'ici au Québec en passant, là, où on a dit, c'est vrai, il y a peut-être un problème dans la façon dont on reçoit ça, puis on a tendance, parce que c'est la parole de un contre l'autre, qu'on prend plus ou moins au sérieux. Mais je sais pas si c'est l'avenue idéale, parce que pour en avoir parlé avec des gens qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans le passé, la simple idée, puis il y a des gens pour des raisons qui sont très valables vont décider que ils n'iront pas plus loin.
Tout à fait.
Ils ne porteront pas plainte.
Tout à fait.
Et ça leur appartient, ça.
Exactement. Ce n'est pas un crime comme les autres. Tu confirmes ce que j'ai dit. Ce n'est pas un crime comme les autres. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait du côté des forces policières. Tout n'est pas égal et tout n'est pas parfait. Mais ce genre de rencontre-là, de manière de fonctionner, si c'est comme pour la loi sur l'aide à mourir, sur l'aide médicale à mourir, il va y avoir vraiment certainement commission parlementaire.
Ça a été bien fait.
On est allé voir ailleurs ce qui se faisait également. On a pris différents témoignages. On a mis toutes sortes d'experts à disposition et toutes sortes de gens qui travaillent avec les personnes en fin de vie. Et donc, on a écouté beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'est pas arrivé avec des idées préconçues. J'imagine, j'ose espérer que... Et je crois, je donne la chance aux coureuses dans ce cas-là. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver dans ce cas-là. Mais est-ce qu'un tribunal spécialisé... Enfin, pour l'instant, les observatrices et les observateurs semblent dire que oui, ce serait en tout cas une voie possible et efficace. Attendons de voir, mais vraiment, je me réjouis que... Au moins la démarche est lancée. Ouais.
Parlons d'une histoire. J'ai failli cracher mon café quand j'ai entendu ça ce matin. L'histoire de l'appropriation culturelle. Les fameux dreadlocks de l'humoriste qui a été banni de la scène. C'est une coopérative de l'UQAM.
Exactement. La coopérative Les Récoltes qui a été lancée tout récemment en 2018. Autogérée, ça vient d'un groupe axé sur la diversité à l'UQAM. Et il y a un humoriste, Zach Poitras, qui devait donner un spectacle et qui... On l'a tous vu sur un texte Facebook du groupe de la coop Les Récoltes. Donc, il n'a pas pu faire son spectacle parce qu'il avait des dreadlocks. Et on raconte que... Et je me suis vraiment demandé, lisant, et je me demande encore si ce texte-là est tellement niché, tellement crinqué en ce qu'il raconte sur l'appropriation culturelle. Alors, les dreadlocks, c'est de l'appropriation culturelle et c'est une violence envers les personnes racisées qui, pendant des décennies d'esclavage, de génocide, disent-ils, se sont vues interdire de s'habiller, de se coiffer comme ils veulent. Je les cite au texte. C'est une claque au visage de voir un autre groupe se l'approprier sans problème ni conséquence. J'ai cru à un fake, un canular, une parodie et j'ai encore un doute tellement c'est... fou, cette affaire-là. Des pages entières comme ça. C'est sûr, Mathieu, il y a des choses qui ne se font plus, et tant mieux, comme des blackface. Mais là, on est vraiment dans le niaisage. Ce sont des nouveaux curés en quête de pureté idéologique. À un moment donné, l'antiracisme rejoint le racisme. Visiblement, dans ce cas-là, il y a une dérive. L'appropriation culturelle a vraiment le dos large. Dans ce cas-là, si c'est vrai, elle est revancharde, elle est bloquée, elle est raciste et ça devient complètement fou et complètement chacun dans sa chapelle, chacun dans son groupe et on ne se rencontre pas. Ça veut dire que par exemple Biz, Dead Obese et Corias ne peuvent plus faire du rap parce que ça vient de la culture noire. On peut aller jusqu'à l'infini comme ça, appropriation culturelle, tout n'est pas appropriation culturelle et on a vu surgir au même moment l'appropriation corporelle corporel. Tu sais qu'il y a ce film de Upside, ouais, qui est la version américaine du film Intouchable, qu'on, ouais, a tous vu, qui a connu un grand succès, où un riche paralytique rencontre un jeune noir et il y a une relation d'amitié extraordinaire qui s'enchaîne. Et un acteur sans handicap peut-il jouer un handicapé? C'est la question que certains groupes se posent. Ça prend donc des handicapés pour jouer des handicapés. Tant pis si un Jean-Marc Parent nous a sensibilisés il y a plusieurs années dans un monologue humoristique à la situation des handicapés, puis ça,
imagine,
nous a ouvert les yeux.
En 2019, Marie-France?
Ben non, c'est impossible. Oublie ça. Dustin Hoffman devra rendre son Oscar pour Rain Man, où il jouait un autiste. Tom Hanks pour Forrest Gump, où il jouait un déficient intellectuel. C'est du jeu d'acteur, son nom le dit. Dans cette logique-là, les femmes ne joueront que des femmes, les hommes que des hommes, les gays que des gays, les noirs que des noirs, les comptables que des comptables. Jouer, c'est transposer, c'est sublimer. Sinon, c'est du documentaire, c'est du réel, et on ne veut pas qu'un monde que de réalité. Et il y a des choses qui bougent avec l'histoire de Slav, qui est représentée d'ailleurs en région. Ouais, la tournée commence en région. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. Tout ce discours sur la diversité est vraiment capital, important et nécessaire. Slav, qui a été censuré par le Festival de jazz, aura été un électrochoc. Ça aurait été une date marquante. Il y a maintenant une écoute réciproque nécessaire, des solutions, un terrain commun à trouver. Ça passe par la parole, le dialogue et la générosité. Il faut faire attention, d'une part, à l'autocensure qui est toujours possible. Il faut faire, d'autre part, attention à la tentation d'enfermement et de pureté. Mais l'idéal, c'est un métissage. C'est Mary Poppins jouée par une noire. C'est un humoriste blanc avec des dreadlocks. C'est un non-handicapé qui joue un handicapé. Les alliances se forment. C'est ça qui fait avancer le monde et les esprits. Mais vraiment, des attitudes, l'attitude hautaine des curés extrémistes est tout à fait contre-productive. Et on en voit plein d'exemples en ce moment. J'ai l'impression que c'est une période d'adaptation. On va voir vraiment des extrêmes et des extrémistes, ouais, s'exprimer. Et je peux croire à la bonne volonté de tout le monde et qu'on va revenir à quelque chose qui nous aura tous fait avancer comme société. Mais en attendant, là, l'histoire des dreadlocks, ça veut dire qu'on ne verra pas le retour du groupe féminin de Bacaracol. Une des deux filles,
oui,
avait des dreads.
Kelly Rhodes aussi, qui était un groupe reggae québécois qui avait, ben, des, oui, qui avait des dreads, le chanteur. Oui. Mais tu sais que les dreadlocks ont beaucoup une signification, un lien d'appartenance avec la culture rastafarienne.
Oui.
Mais tu sais que la culture rastafarienne n'est pas une, c'est pas uniquement en Jamaïque. Il y en a en Asie.
Oui,
il y en
c'est
a
vrai.
En Nouvelle-Zélande. Il y en a en Europe.
Oui, oui.
Il y en a partout. Donc, elle est multiculturelle.
Absolument. Mais c'est exactement comme l'histoire de Slav, où Robert Lepage et Betty, ouais, Bonifaci parlaient de l'esclavage, mais pas que dans celui des Noirs américains. Ça partait en Macédoine, au haut Moyen-Âge, et on parlait de l'esclavage des Pakistanais dans, ouais, les usines de textiles actuelles. Donc, la réalité est beaucoup plus complexe que ce que les nouveaux curés veulent nous faire croire.
Merci beaucoup, Mme Bazot. À demain.
À demain.
Il est 17h27.